Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
Qu'il est beau le geste auguste du semeur, puisant le grain merveilleux et l'envolant jusque dans une terre accueillante et nourricière. Qu'elle est magique cette première pousse aux gracieuses petites feuilles, qu'il est généreux. Ce processus qui, pour une graine mise en terre, vous en donne 100, une pour le semis d'après et 100 pour la gourmandise et le partage. Mais il semblerait que quelque chose soit pourri au royaume de Jack et du haricot magique, qu'un ogre avide veuille faire de l'or avec de la vie. Or c'est déjà arrivé auparavant, c'était involontaire, c'était le roi Midas qui mit en péril ses enfants et sa propre survie. La leçon a-t-elle été apprise? Loin s'en faut, les ogres ne goûtent guère à la culture, ils sont bêtes et méchants. Leur jeter la pierre est facile, mais n'oublions pas qu'ils sont ce qu'ils sont pour servir les 0,75% de nos retraites et assurances vie privées, remplaçant les retraites d'État que nous avons laissé démolir parce que nous étions occupés à prendre soin de nos jardins. Ah là là, rien n'est simple, ma foi. Heureusement, il nous reste le geste auguste du semeur. Plus pour longtemps, si on reste juste à regarder pousser les choux. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Abadzian, technicienne de semences. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Titane, bonjour.
Bonjour.
Et puis Hélène.
Bonjour.
Et nous allons parler des enjeux de la production de semences. Une fois n'est pas coutume, nous allons sortir du jardin cette fois, car celui-ci n'est pas une île, et parmi les influences qu'il subit, les influences des entreprises géantes se font les plus discrètes, mais n'en sont pas moins parmi les plus importantes. Mais d'abord, c'est le moment de répondre à vos questions, questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez quand même adresser à question@radioperma.org. Alors, dans les questions de cette émission, nous avons Frédéric Bochette qui nous dit « Bonjour à tout le monde, une petite question. Est-ce une bonne idée de ramener de l'humus de la forêt adjacente à mon jardin pour amender le sol de mon potager ?» Alors, qu'en est-il,
Hélène ? Alors, disons qu'à différents niveaux de réponse, sur le plan agronomique, on va dire oui, c'est une bonne idée, mais sur le plan écologique et pillage de la planète, non. Parce que si tout le monde va se prendre un peu d'humus dans la forêt, eh ben, il ne va plus en rester beaucoup. Alors que l'humus, c'est important qu'il reste aussi dans la forêt pour renouveler la fertilité des sols de la forêt. Donc, ce n'est pas une bonne idée par rapport à ça. D'autant plus que l'humus, on peut fabriquer, en tout cas les précurseurs de l'humus, qu'est le compost. Et on peut le faire chez soi avec des sous-produits de notre alimentation, de nos productions de jardin, etc. Après, bon, exceptionnellement, en dépannage, si on n'a pas de compost, etc., etc., on peut peut-être en prendre un petit peu pour faire des semis en mélangeant avec de la terre et du sable et tout ça, mais il faut vraiment que ça reste exceptionnel. Parce que moi, je trouve que chaque geste qu'on a, si on l'imagine reproduit par les... On est combien de milliards déjà sur la planète ?
7, des brouettes.
7, 8, voilà. Bon, ben voilà. Donc si on imagine ce geste-là multiplié par 7 milliards de personnes et qu'on regarde ce que ça donne, on se dit, ben, ça va pas être terrible, quoi.
Oui, surtout
que ça prend du temps dans la forêt, c'est très long, beaucoup plus long que quand on fait du compost soi-même chez nous, hein, en le mettant en tas et tout ça. Donc, voilà.
Surtout que si Frédéric a un jardin, on peut imaginer qu'il a des déchets organiques, des effluents organiques de ce potager, donc il faut bien en faire quelque chose. Alors, Claire Guerrier, bonjour. J'ai acheté l'an dernier un mélange de graines pour plantes mellifères type prairie fleurie que je n'ai pas encore utilisé. Est-ce que vous pensez que si je sème directement dans la zone que je laisse à nos amis insectes et autres, ça peut pousser? Ou est-ce qu'il vaut mieux créer une nouvelle zone bien préparée? Peut-être faire des bombes à graines, sinon avant de les balancer. Qu'en dites-vous?
Alors... Déjà, ce que tu viens de répondre, c'est une réponse.
Ah, c'est pas ma réponse, c'est ce qu'elle propose.
Ah, c'est elle, pardon, je crois que... Et ouais, c'est toi qui disais ça. Ça peut se faire, mais après, sinon, ce qu'elle peut faire... oui, c'est une fille... c'est griffer un petit peu la terre, c'est-à-dire pas préparer la terre au sens comme si elle allait faire des semis avec des petites graines, que la terre, le lit de semences doit être très fin, etc. Mais elle peut gratter au râteau et puis lancer les graines comme ça au milieu. Parce que sa zone à insectes, on ne sait pas trop ce que c'est. Si c'est du chien d'an, bon, ça va être un peu compliqué. Mais si c'est des herbes différentes, plein d'herbes, qui a de la diversité, oui, on peut essayer de faire ça en le faisant, par exemple, attendre qu'il est griffé au râteau, attendre qu'il pleuve et puis après les jeter. Pour que ça germe rapidement et qu'elle ne soit pas prise par les oiseaux, les fourmis ou autre chose.
Mmh. Ouais, donc elle n'est pas obligée de faire une zone spécifique.
Non, faire une autre, non, c'est pas obligé.
Surtout si elle en a déjà une.
Non.
Théo Laguioni, bonjour. Est-ce qu'il faut que j'enlève mon paillage pour semer? C'est environ 10 cm de divers végétaux en décomposition. Alors, BRF, paillage, déchets alimentaires. BRF, notre acronyme préféré. Bon, je pense qu'on va repartir sur une explication sur ce que c'est que le BRF. Ouais. Alors, je me pose la question maintenant, car soit avant je semais en enlevant le paillage, soit je semais en godet et replantais plan par plan, ce qui était assez fastidieux. Merci. Bon, alors le BRF, c'est quelque chose de très particulier qu'on fait avec une certaine période de l'année, avec un protocole. Donc, on va imaginer que quand tu dis BRF, Théo, tu nous parles de bois broyé. Voilà, on va surtout imaginer que c'est ça, parce que si tu le mélanges avec du paillage et des déchets alimentaires, ça ne correspond plus tout à fait à du BRF, probablement. Alors, on plante déjà, directement ou on enlève le paillage?
Alors, ben après, ce que je n'ai pas bien compris, c'est que sous son paillage, qui est déjà pas il y a une zone qui est encore en train de se transformer, quoi, on va dire. Donc là-dedans, on ne peut pas semer directement, sauf des grosses graines, courges ou des choses qui ne sont pas sensibles, mais sinon, on ne va pas faire des semis là-dedans. Donc, effectivement, s'il veut semer des salades, des carottes ou autre chose, il vaut mieux écarter ça et puis semer dans la vraie terre, entre guillemets, quoi, et laisser continuer son... Ce qu'il fait, en fait, c'est du compostage de surface, en fait. Donc, il faut laisser continuer à faire ça séparément de l'endroit où il fait sa ligne ou ses semis, quoi.
Mais du coup, après, une fois qu'il a fait son semis, il ne rapproche pas le paillage?
Ce qui sert à couvrir, mais si c'est vraiment un mélange de végétaux en voie de transformation, là, c'est pas terrible de le rapprocher trop des plantes, quoi. Il vaut mieux le laisser faire sa vie tout seul, et quand ses plants seront à une certaine hauteur, 10 ou 15 cm, il remettra quelque chose pour couvrir la terre à côté, mais autre chose, quoi. Ce que je ferais, moi.
Ouais, donc Théo, si j'ai bien compris, t'enlèves ton paillage, ce que t'appelles le paillage, tu mets tes graines, tu recouvres pas tout de suite ou plus tard, et ou sinon, si tu veux pas enlever, tu fais en godet. Et puis voilà.
Mais même en godet, vu que c'est en cours de transformation, ça veut dire que dans toutes les fermentations, même si c'est une fermentation à froid, il y a des produits transitoires qui risquent d'être toxiques pour ce qu'il va mettre, donc il vaut mieux pas. Même s'il fait les godets, qu'il les met dans la terre, il vaut mieux chercher autre chose pour pailler après.
Et ben voilà. Dernière question pour cette semaine de Adriano Nantes ou Nantes, je sais pas. Petit sondage. Vous avez quoi encore dans vos potagers? Alors c'est une question qui date de début mars, fin février. Moi j'ai encore des poireaux et la mâche, ça sent la fin. Ah, c'est terrible. Je suis autonome en légumes toute l'année, mais la période mars, avril, mai est la seule période où je dois racheter des légumes. Comment faites-vous en cette période pour tenir? Je parle en légumes frais, bien sûr, car il me reste quelques conserves. Aïe, 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 Adriano, on voudrait pas que tu meures de faim. Beau jour d'avril, quand même, ce serait dommage. Alors, comment il fait pour tenir?
Pour avoir quelque chose qui produise au début de printemps, on va dire, quoi. À ce moment-là, il faut anticiper un peu, mettre par exemple des fèves, des petits pois, des choses comme ça qui peuvent se mettre. Il dit où il habite, je sais pas.
Non.
En tout cas, les fèves, les petits pois, des choses qui craignent pas trop, même au contraire, qui aiment le froid, il peut les mettre avant. Et puis après, la solution, c'est d'avoir un abri quelque part pour faire de la culture un petit peu abritée, quoi, pour faire des châssis, voilà, fabriquer des châssis. Et avoir des choses comme ça. Et puis après, il y a quand même plein de légumes, j'imagine. Ça, on en parlera dans une autre émission, mais qu'il a pu conserver aussi, en silo ou autrement. Donc, c'est vrai qu'on mange moins peut-être de verdure. Mais il y a tous les légumes racines et tout ça qui permettent de faire la soudure entre les deux saisons de jardin.
Moi, il y avait aussi quelque chose. Mars, avril, mai, c'est quand même la période de reprise de végétation. Et du côté sauvage comestible, il y a quand même pas mal de choses. Si vraiment son objectif, c'est de manger de la salade ou des légumes frais et croquants, il y a du enfin, je sais qu'il y a du tilleul.
Pissenlit
qui commence. tout ce qui est oseille sauvage, rumex qui commence à sortir. Déjà, déjà début mars, le rumex, ça sort. Et c'est même maintenant que c'est probablement le meilleur à ce moment-là. Donc, il y a aussi cette possibilité d'aller voir ce qu'il y a dans les... dans les haies, dans les bordures, partout autour. Voilà, Adriano, survie, tu tiendras. Allez, on va s'écouter un petit peu de musique. On va s'écouter un titre de Pang qui s'appelle Fais-le. On en parle juste après.
Fais le plein, le plein de produits locaux, c'est sain, le panier bio. Viens, viens, rejoins le réseau. Tiens, 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 prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise. Nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable.
Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin. C'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé. Que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait.
Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette. Toi, ouais, je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie. Et mon monde fleurit. À mon image, je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers. À toi de faire.
Fais-le.
Plus rien n'a bouffé, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et levain, une heure après, j'ai fait mon pain. Deux pas dans le jardin, je cueille tomates et mesquins. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le v'là qui débarque avec ses falafels au cul, main 100% fait main. Tel sera notre festin, ouais.
Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derge. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-le. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-lui. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais-loi. Fais ton pain, t'es le vin. Fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin. Fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien. Fais du gras, ça fait tiens. Fais un rien, on s'en fout ou sois fou. Fais tout.
I wanna do it, yes, I'm gonna do it. I wanna do it, yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it, do it. Do it, 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 do it.
C'était Pang dans leur titre Fais-le. Vous êtes sur Couleur FM 97.1. Pang est un groupe belge qui a décidé de faire de la musique urbaine et permaculturelle qu'on ne peut que chaudement vous recommander. Vous trouverez leur titre sur tout un tas de plateformes de vidéos, je pense YouTube par exemple, pour ne pas le citer. Ils sont extrêmement créatifs, ce sont des gens qui viennent de différents horizons. C'est très urbain et en même temps très permaculture, transitionnelle, chaudement recommandable. Bon, allez, on parle enjeu des semences, aspect politique, mais restez avec nous, ne vous inquiétez pas, on parlera aussi du jardin. Nous sommes avec Valérie Abadian. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et toujours avec Hélène et Tita. Alors, en introduction, je parlais des géants qui prennent... possession des semences comme des gros ogres. Est-ce que c'est le cas? Enfin, c'est une situation qui se produit vraiment ou est-ce qu'on maximise, on a un peu trop emphatique à cette question-là ou pas ?
Non, c'est une situation bien réelle, malheureusement. Mmh. Avec notamment, tout le monde connaît Monsanto,
oui.
Qui n'est plus Monsanto parce qu'il a fusionné avec Bayer. Ou officiellement, Bayer a racheté Monsanto.
D'accord.
Donc, je pense que c'est parce que ce nom de Monsanto est...
porte des casseroles.
Voilà, et donc il fallait changer de nom, mais pour autant, il ne change pas d'activité. Donc Monsanto, en fait, ça a commencé dans les années 80. Avant, il y avait plein de petites entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, même en France, la période de Claus, Villemorin, Thésier, qui ont connu vraiment des grandes périodes de gloire, parce que ça venait de familles importantes au siècle dernier.
Villemorin, Thésier, De Clause, c'est ça ?
Clause.
Ah oui, Lucien Clause, c'est ça que j'ai vu sur des paquets. Oui, ok, d'accord.
C'était peut-être, ouais.
Des petites familles qui faisaient des semences.
Voilà, en tout cas en France.
Mm-hmm.
Mais donc dans les années 80, il y a eu toutes ces entreprises qui ont été rachetées de plus en plus par les grosses, des plus grosses qui étaient rachetées par des plus grosses, qui étaient rachetées par des plus grosses.
Tu veux dire que ces groupes, là, type ces marques Villemorin, Thésier, Clause, en fait maintenant, c'est juste des marques,
l'Imagrin.
Quoi, en fait. Ah,
L'Imagrin est le quatrième groupe semencier mondial, donc français,
d'accord.
Le premier français, européen d'accord. même. Tous les autres vendent de l'agrochimie, en même temps que les semences et tout ça. L'Imagrin, lui, ne fait que...
L'agrochimie, c'est des traitements, voilà. C'est pesticides, des choses comme ça. Parce que quand tu parles de Bayer, pour moi, je pense tout de suite chimie.
Mais c'est ça. En fait, il y a la chimie agricole, et puis Bayer, c'est aussi tous les médicaments. Hein. Donc la chimie agricole, c'est les pesticides, c'est les engrais. Et donc l'Imagrin est le quatrième donc français qui ne fait pas d'agrochimie mais seulement les semences et a racheté par exemple Claus Villemorin Thésier qui pour autant les semences sont toujours vendues sous le nom de Claus Villemorin Thésier
comme d'habitude
qu'on peut trouver dans toutes les jardineries mais quand on achète ces semences là on ne sait pas que c'est l'Imagrin qui est derrière et en fait ces grandes entreprises non seulement rachètent aussi tout le savoir-faire. Il n'y a pas que le savoir-faire qu'ils rachètent, ils rachètent aussi ce qu'on appelle les ressources génétiques. Donc c'est toutes ces anciennes variétés populations qui sont conservées et qui sont des réservoirs pour la future création variétale. Donc ces grandes entreprises rachètent donc ce potentiel génétique, on va dire, la partie vivante, et surtout, déposent des brevets. Donc, il y a une différence de législation entre l'Amérique et l'Europe sur les aspects brevets. Mais en tout cas, dépose de plus en plus de brevets, mais des milliers par an. Et en fait, c'est là le plus gros problème aussi.
C'est quoi le souci de racheter le potentiel ? Quand tu dis racheter le potentiel génétique, c'est en fait, il s'approprie un genre de droit d'auteur ou quelque chose comme ça sur les gènes des variétés qu'il rachète, c'est ça ?
Non, le droit d'auteur, c'est les brevets.
D'accord.
Si on faisait l'analogie avec de l'écriture du livre, ce serait le génie de l'auteur, en fait.
Mais il rachète les mots, en fait.
Voilà, sauf que là, c'est des graines et des gènes, mais ouais.
D'accord. Et ensuite, une fois qu'ils ont des brevets sur un certain nombre de gènes, de choses comme ça, c'est ça, ou de séquences, et puis ensuite, on ne peut plus s'en servir. Enfin, je veux dire...
Voilà, c'est ça, en fait.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de croisement, on ne peut pas faire de sélection variétale.
Non, puis si on va beaucoup plus loin, et c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est que même les populations autochtones, par exemple, pourraient ne plus pouvoir utiliser les variétés locales parce qu'un groupe comme Bayer ou l'Imagrin ou quoi aurait trouvé une portion de gène, aurait trouvé une invention où ils trouvent un gène intéressant dans ces variétés locales et ils s'approprient toutes les variétés, par exemple sur une espèce comme le poivron, on va dire, qui porte ce gène, mais d'une manière naturelle.
D'accord, donc en fait c'est un genre d'appropriation par le droit sur quelque chose d'éminemment naturel et pas du tout créé ou produit par une entreprise. Enfin, on n'est pas là dans la création d'un code informatique qui demande de l'intelligence, etc. Mais on est dans... Okay.
Donc si tu veux, au départ Monsanto par exemple pouvait déposer des brevets sur une invention qu'ils avaient créée eux, par exemple un transgène dans les OGM, organismes génétiquement modifiés, il y a des transgènes. Donc des portions de gènes qui contiennent un gène de poisson, un gène d'araignée, un gène de fraise.
Ah super, du poisson dans les fraises.
Donc si tu veux, Monsanto avait ces créations-là, c'était vraiment leur invention, ils pouvaient déposer un brevet là-dessus. Mais maintenant, les brevets vont de plus en plus loin et sont déposés sur des choses qui ne sont plus créées par ces entreprises, mais juste découvertes et mises en évidence.
Oui.
Pour moi, ce n'est pas normal. Parce que d'accord. C'est quelque chose de naturel, finalement. Ils prennent des semences ou des gènes qui ont des centaines d'années et qu'ils se les approprient.
Mais on est d'accord. On est d'accord que ce n'est pas normal.
Comment l'accepte-t-on ? C'est ça, je veux dire, juridiquement. C'est ça qui est extraordinaire.
Moi, là, j'ai plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est comment ça s'accepte juridiquement, mais probablement parce que derrière il y a une puissance d'argent qui a un impact sur le politique, j'imagine, parce que ça se joue. Après là, ça va poser peut-être une question plus large, celle de c'est notre démocratie qui fonctionne ou qui fonctionne pas, parce que quand à Bruxelles, l'essentiel des lois, en fait, elles sont d'abord proposées par des lobbyistes et puis ensuite amendées par des entre guillemets professionnels de la politique. Mais du coup, je pense que c'est ça un des soucis qu'il peut y avoir. Non ?
Oui, c'est vrai que... Oui, bien sûr.
Il y a une question de puissance d'argent, de oligarchie, de plutocratie, de tout ce qu'on veut et qui sont en lien avec notre démocratie. Mais moi, j'ai une question un peu plus... moi, j'ai un problème beaucoup plus technique. Je suis biologiste à la base. Donc, tout ce qui est transgénèse, je connais un peu. Et je sais exactement comment on fait de la transgénèse. Enfin, il y a plein de manières d'en faire, mais une d'entre elles, c'est d'utiliser des bactéries qui vont aller prendre dans lesquelles on va mettre des gènes, mais qui naturellement le font déjà, et puis qui vont transférer ce gène dans une plante. Donc, en fait, autour d'une plante, typiquement, il y a toujours tout un tas de bactéries qui sont susceptibles de prendre des gènes dans ces plantes et puis de les emporter dans d'autres. Mais déjà, à l'état naturel, ça se passe tout le temps, en permanence. Du coup, moi, ça m'étonne énormément, cette histoire de prise de droit sur un gène qui peut se balader tout seul, quoi.
Oui, qui peut se balader tout seul. En fait, dans la nature, il se passe plein de choses naturellement. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments de réponse dans ce qu'on vient de dire.
Prends-les les uns après les autres.
je vais essayer de tous m'en souvenir. Mais par exemple, si tu prends, pour continuer sur l'aspect biologique, des mutations. Les mutations génétiques, ça existe dans la nature. Et entre le blé sauvage qui se consommerait même pas et le blé qu'on consomme maintenant, il y a eu plein de mutations naturelles que l'homme a su observer, récupérer et reproduire. Mais maintenant, on fait des mutations qui sont induites et par des méthodes pas forcément très sympathiques, comme la radioactivité, comme bombarder avec des produits chimiques. Et par exemple, c'est comme ça qu'on rend des variétés résistantes à des herbicides qui ne sont plus des OGM par transgénèse parce que
Le gène existe ailleurs et du coup on transférait dans une plante, mais en fait on fabrique complètement...
Si tu veux, cette mutation, maintenant on l'induit et on n'utilise plus la transgénèse parce qu'il y a une réglementation sur la transgénèse bien spécifique. Mm-hmm. Mais si maintenant on produit ces mutations et c'est juste une mutation, donc ça ne rentre pas dans le cadre réglementaire et législatif des OGM. Donc ils font ce qu'ils veulent actuellement avec les mutations induites, mais induite par l'homme dans une portion de gène qu'on connaît exactement. D'accord. Donc il y a tout un combat aussi sur les VRTH qu'on appelle, donc les variétés rendues tolérantes aux herbicides. Il y en a beaucoup sur le tournesol, sur le colza, sur toutes ces espèces de grandes cultures qui sont des OGM déguisés et qui du coup ne sont pas réglementés comme des OGM. Donc nous, par exemple, avec le réseau Semences Paysannes et d'autres organisations de la société civile, on alerte sur ces variétés-là et on demande à ce qu'au niveau européen, elles soient soumises à la réglementation OGM.
On parlera du réseau Semences Paysannes dans quelques minutes. Mais du coup...
Parler du brevet aussi.
Il faut parler du brevet, alors parlons du brevet.
Parce que tout à l'heure, Titane, quand tu disais « mais comment on peut accepter ça ?» En fait, alors certes, au niveau européen, à Bruxelles, il y a les lobbies et tout ça. Après, ce qu'il y a surtout aussi, c'est que les politiques qui votent les lois ne savent pas ce qu'ils votent.
Mais c'est très c'est technique.
Et c'est hyper technique et c'est vrai qu'il y a les gros lobbies en face. Et surtout, ils ne comprennent pas forcément les enjeux et les conséquences des lois qu'ils vont voter. Et même la loi comme elle est écrite, il n'y a que des juristes vraiment spécialistes qui arrivent à comprendre. Donc tout notre travail, alors on reparlera du réseau Semences Paysannes, mais il y a eu une loi qui a été enfin votée l'été dernier, et pendant 2 ans et demi, on a travaillé à déchiffrer tous les textes, à les faire comprendre aux politiques qui vont les voter, leur faire comprendre les enjeux et les conséquences, et leur proposer des décrets pour amender ou compléter tous ces textes-là. Après, sur l'organisme européen des brevets qui accorde tous les brevets, mais je dis bien, il y en a des milliers au niveau européen, en fait, il est complètement indépendant, il est privé. Il n'y a aucun gouvernement qui siège à l'intérieur de cet organisme et il est financé par les brevets qu'il accorde. Donc, il accorde tous les brevets. Et toi, tu sais pas. Et au niveau de la société civile, en fait, un dépôt de brevet, c'est des centaines de pages d'un texte que personne ne peut comprendre. Donc, au niveau de la société civile, quand on s'est mobilisé contre quelques brevets, on a pu en faire rejeter, par exemple, 3 ou 4. Mais ça prend un temps énorme de déchiffrer, ne serait-ce que 3 ou 4 brevets. Ouais. Donc, ça passe.
3 ou 4 brevets, au regard des milliers qui doivent se déposer tous les ans, effectivement, ben voilà. On est dans du David contre Goliath, là. Bon, ben, quel tableau réjouissant.
Alors, je vous parle de la réalité pour que vous soyez au courant, mais je ne suis vraiment pas là pour vous plomber.
Non, mais en même temps, c'est important de le connaître, typiquement, si une graine qui est VRTH, je t'appelle ça, n'est pas étiquetée comme OGM, et que l'étiquetage ne concerne que les OGM, ça se trouve, on mange des choses qui sont manipulées génétiquement sans que ça s'appelle OGM.
Mais depuis très longtemps.
Et depuis très longtemps, merci. Je suis pas là pour vous plomber mon œil.
Juste une question, qu'est-ce qu'a gagné entre David contre Goliath? Tu peux le rappeler?
C'était David, quand même. C'est bien pour ça que je prends cette image-là.
Oui, donc.
Non mais, je connais mes mythes et mes termites quand même, hein, c'est bon.
Non mais c'est important de le rappeler,
bien
parce
sûr,
que justement.
C'est très important de...
Tant mieux si on est dans cette situation.
On a
hein.
peut-être une chance d'arriver à s'en tirer. Est-ce qu'il y a, pour finir, il nous reste quelques minutes pour finir de tirer l'alarme. Est-ce qu'il y a d'autres choses où t'as déjà tracé un tableau suffisamment sombre?
Bah, il est réaliste.
Il est réaliste.
Dans la partie sombre, avant qu'on aborde les choses positives, écoute, ça c'est quand même le plus gros.
D'accord, ok.
Voilà, c'est quand même le plus gros. Si autre chose me vient, je vous le dirai, mais il y a déjà bien à faire avec ça.
D'accord. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer qu'en Tanzanie, ils n'avaient même plus le droit d'échanger des graines. Il y avait un truc de cet ordre-là aussi. Parce qu'en fait, en pratique, interdire à des peuples autochtones d'utiliser leurs graines, c'est ça, quoi. C'est les empêcher de les semer, empêcher de les cultiver en général, de s'en servir.
C'est vrai que tu me donnes l'occasion de rappeler quelque chose quand même d'élémentaire, d'essentiel. La graine, c'est la souveraineté alimentaire. On est d'accord. S'il y a des tels enjeux, c'est parce que c'est le but. Certains croient qu'ils vont pouvoir empêcher la population à l'échelle mondiale de se nourrir et les obliger à acheter leurs graines. Bon, on peut les laisser croire ça. Bon, on voit qu'ils sont très outillés. Enfin, ils ont ce qu'il faut pour mener à bien leur mission. Mais bon, pour moi, c'est illusoire de croire qu'ils pourront faire ça. Et puis, plus il y a de la résistance qui s'organise, et moins ils pourront le faire. Et la résistance, on verra après sur les aspects positifs, mais la résistance, elle est là. Ouais. Elle existe.
Ça, j'ai l'impression que ce dont tu me parles, ça fait partie de ce mouvement actuel de faire passer dans la sphère commerciale des choses qui auparavant étaient de l'ordre juste du bien commun ou même du partage tout simple, que le covoiturage en fait et la commercialisation de ce qu'on appelait avant l'autostop, que la privatisation des graines c'est juste farfelu, tout comme Nestlé considère que puisque les gens boivent de l'eau, ils devraient devoir la payer, quoi. Enfin voilà, ce changement-là de mentalité qu'ils sont en train d'essayer d'inculquer aux gens. Bon, on va se réécouter un petit morceau de Pang parce qu'on veut pas se plomber, au contraire, on veut y aller à fond. Alors, on va écouter Pang dans Habitat Plume.
c'est notre droit. Léger, c'est notre joie. Chez nous, le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autant construire, hey, écologie, hey, respect, nous choix de vie.
Dis-moi d'abord, chérie, écologie, à tout.
Les îles de main, on se casse, on les abattasse.
Non. Cochon, y'a pas du bon. J'te parle nos maisons et nos coups bonbons. Pas d'autre option, travailler dur. Se saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les crocs, fini les coups. Car pire des mots, c'est sous du loup. Le temps fait défaut, l'argent de faux. Bon 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 bon, j'emprunte pour quatre générations.
Bonjour monsieur cochon, mm-hmm. On le fait pour vous aider, mm-hmm. Il vous faut de la monnaie, je peux vous en procurer 10% d'intérêt. Je sais c'est élevé, mais qui d'autre que Wallbang prêterait à un cochonnet.
Hey, le v'là endetté, j'ai trouvé la parade, je le tiens par le porte-monnaie.
L'heure de ma vengeance va bientôt sonner.
Yo, chalet, foule de son yo. Caravane, cabane, van, mobilo. Yeah, la rita, c'est notre droit. Léger, c'est notre joie. Chez nous, le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie, hey, respect, choix de vie.
Fini la marcherie, apologie, attentif.
Les signes de main, on se casse, on les abattasse.
Garçon, pas cette affaire-là, même au sens, est-ce que j'ai le choix? Je vais passer voir les frérots et leur en toucher deux mots.
Et la misère. Et le loup galère. La vie d'un petit dieu, la forme qui me plaît. À toi quel qu'il soit, bienvenue chez toi mon frère.
Je suis sceptique, c'est pas de la brie.
C'est la terre du bois de la paille, 100% local.
Bref, rien de bon, en terre d'isolation.
Feu de chambroulaine, ma maison est saine.
Chaque hiver, retour à la glacière.
N'importe quoi, j'ai un bon poil à bois.
Ma truie et moi, mais où est-ce qu'on fait caca?
Tu connais pas ton SSO?
Chalet, vous êtes son micro. Caravane, cabane, van, mobilo. La rita, c'est notre droit. Léger, c'est notre joie. Chez nous, le loup fait pas sa loi. Autonomie, hey, autoconstruit, hey, écologie.
Ah, enfoiré de cochon, ils ont trouvé la solution. Vite, une autre astuce. Messieurs les cochons, que faites-vous là? Vous avez un permis? Dites-moi de quel droit vous avez construit ça, hein? La loi ne dit rien sur votre cas, alors dégagez-moi de là.
Le loup, encore une fois toi, laisse béton le tomber. Là, ton système grégaire nous rend bien amer. Laisse donc faire les rois du camping vert. On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter. Moi et mes porcelets, on veut pas être assisté. Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé. Allez, on n'est pas des vaches, allez.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats plus, on en vient dans ta boue.
On est des cochons, on est des cochons. On est des cochons, on a construit nos maisons.
Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup. Avec nos habitats plus, on en vient dans ta boue.
Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous.
FM 97.1, c'était Pang qui nous parlait avec joie et plaisir des habitats légers. Et nous sommes encore avec Valérie Abadzian qui nous parle de semences. Et tu voulais aussi nous parler d'hybridation, c'est ça, des hybrides, choses qu'on nous ferait croire qu'on peut pas faire des semences nous-mêmes. Non, j'ai pas tout saisi.
Oui, en fait, j'ai parlé des brevets avant, mais... C'est vrai qu'avant, les brevets, c'est, on va dire, le 21e siècle. Et tu voulais que je te rajoute des choses un peu négatives.
Tellement envie. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui font du journalisme positif, du journalisme de solution. Non. Donc, conscientisons, culpabilisons.
Donc, pour plomber...
Bon, après,
pour plomber nos auditeurs. Non, mais c'est juste pour... donc, les brevets, on va dire 21e siècle, même si ça commençait avant. Mais 20e siècle, ça a commencé par les hybrides, en fait. Et après, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de la guerre mondiale, Bon, bah, il y avait la famine, tout ça, et il fallait renourrir les peuples. Donc, il fallait produire plus. Donc, il y a eu tout le machinisme agricole. Et il y a eu aussi les variétés qui produisent plus. Et donc, les variétés qui ont été sélectionnées dans les entreprises de semences, où notamment, on a produit des hybrides qui ont cette vigueur hybride et ce rendement supérieur.
Alors, un hybride, pour rappeler, en fait, c'est le croisement de deux variétés différentes qui, lors de la première génération,
je vais l'expliquer.
Ouais.
Mais juste, je voulais dire que ces semenciers, en fait, ont, à un moment, ont expliqué aux agriculteurs qui produisaient la nourriture pour le peuple que eux ne savaient pas faire, alors qu'ils faisaient ça depuis des siècles et des millénaires. Mais après, quand on a découvert la génétique, merci Monsieur Mendel, et qu'on a découvert les hybrides, eh ben, c'est vrai qu'il n'y avait plus que les semenciers qui savaient faire les hybrides et qui avaient les moyens de les faire. Donc l'agriculteur était là juste pour consommer ces variétés que les semenciers savaient faire, donc les consommer et les produire.
Au début, on les a poussés, puis finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont externalisé le rôle qu'ils avaient pourtant depuis des milliers d'années de sélectionneur et éleveur de variétés.
Voilà. Et donc l'hybride, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un procédé technique où on va sélectionner des lignées de plantes qu'on auto-féconde par plusieurs générations. Voilà, c'est technique. Mais toujours est-il que ces lignées, on va introduire, enfin, tellement les auto-féconder qu'elles vont devenir consanguines, on va vraiment réduire leur génétique en fixant des caractères très précis. Et après, quand on recombine deux lignées qui ont été consanguines, elles sont tellement consanguines que quand on recombine ça dans l'hybride, la génétique explose. Donc c'est pour ça qu'elles ont un potentiel de rendement bien supérieur. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cet hybride, il n'existe qu'une fois. Il existe l'année où on fait cette recombinaison des deux lignées, et puis l'année où on le produit, et c'est fini. Après, il n'existe plus, parce que si on ressème l'hybride, on va avoir une dérive génétique, on va dire. Toute la génétique qu'il y avait dans les lignées parentales va s'exprimer. Et donc, cet hybride, on est obligé de le racheter chaque année.
Donc voilà. Avec dépendance et abonnement.
Et en plus, hybride sélectionné pour produire pour l'agriculture industrielle intensive, donc pour produire avec les engrais et les pesticides qui vont avec.
Donc, on a eu les hybrides où, grosso modo, les agriculteurs ne pouvaient plus produire leurs propres semences. Ensuite, on a eu les brevets où les agriculteurs n'ont plus le droit de produire leurs propres semences. C'est plus seulement la possibilité, c'est même le droit, c'est ça?
Voilà.
Ok. Alors, je pense que maintenant, au bout d'une demi-heure d'émission, nos auditeurs et nos auditrices sont au troisième sous-sol. Peut-être qu'on va voir, imaginer comment on peut imaginer la lumière au bout du tunnel, je ne sais pas. Parlons du réseau Semences Paysannes.
Le réseau Semences Paysannes, donc, est né en 2003. À la suite de rencontres organisées par différentes associations. Et il y a eu 300 agriculteurs, paysans, qui se sont rencontrés et qui continuaient à faire leurs semences, mais de manière clandestine. Et quand ils se sont retrouvés à 300 et s'apercevoir qu'en fait, ils faisaient tous la même chose, ils se sont dit, mais on ne peut pas faire ça de manière clandestine, c'est notre droit, et c'est à nous de le défendre et de continuer à faire ça. Donc, ils ont créé le réseau Semences Paysannes en 2003.
D'accord, c'est récent finalement.
Alors, le réseau, on est en 2017, donc à maintenant 14, 14 ans, c'est ça? Et donc, c'est une association qui changera peut-être de statut, mais pour le moment, c'est une association qui fédère au niveau national actuellement à peu près 80 membres, sachant que chaque membre est déjà une association qui travaille localement sur la semence et la biodiversité. Ça peut être des associations d'agriculteurs, mais assez conséquentes, en fait.
Donc, c'est un vrai réseau, une fédération.
Voilà, c'est vraiment le fonctionnement en réseau. Donc, on a 7 salariés.
Ah oui, quand même.
Donc, moi, je suis au conseil d'administration du réseau depuis quelques années. On est 20, il y a 20 sièges au conseil, au CA. Donc, il y a les 4 membres fondateurs qui sont la FNAB, donc la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, le mouvement de biodynamistes Nature et Progrès, qui est un des premiers, comment ça s'appelle, une garantie.
Premier label. Ah,
voilà, mais c'est pas un label, certification d'agriculture biologique. Et le quatrième, c'est un syndicat agricole, c'est la Confédération paysanne.
Je me demandais, j'allais dire que c'était la FNSEA, mais non, finalement, j'ai pas douté longtemps. Et qu'est-ce que vous y faites alors au réseau Semences Paysannes ?
Notre premier axe de travail, parce qu'on a eu deux salariés sur ce sujet, c'est sur les aspects réglementaires. Et donc on est là pour offrir un cadre réglementaire aux semences paysannes. Ce qu'on veut, nous, c'est que les paysans aient le droit de produire et d'échanger leurs semences. Ça, c'est le premier droit inaliénable. Et qu'on défend et qu'on a bien défendu pendant 2 ans et demi pour la dernière loi là, qui a été votée l'été dernier.
D'accord. Du coup, ça s'est obtenu. Ça a été obtenu.
On a pu avoir des avancées, on va dire. D'accord. Et notamment maintenant une reconnaissance légale de la semence paysanne. Et le droit des agriculteurs d'échanger entre eux des semences en petite quantité. La semence paysanne, ce n'est pas du business, c'est de la petite quantité. Mais ils ont le droit de l'échanger dans le cadre de l'entraide agricole.
C'est quoi des petites quantités ? Ça se compte en quintal ? Parce que petite quantité, nous souvent on s'adresse à des jardiniers, tu vois. Donc, nous quand on fait des échanges de graines, c'est dans des petites pochettes en papier qu'on a pliées avec nos petits doigts. Donc je pense
bon,
pas
bah,
qu'on en soit là.
Tu transformes ton jardin de 500 mètres carrés en une ferme qui ferait au maximum 100 hectares. Ouais, quoi. 50. Mais souvent c'est... 100 hectares, c'est quand ils sont plusieurs, quand c'est des GAEC. Mais ça va être des fermes de 20, 30 hectares si c'est de la grande culture. Notamment, y a le réseau le plus actif, on va dire, c'est le réseau des paysans boulangers. Je peux développer ce que c'est qu'un paysan boulanger, mais...
Non, c'était plutôt savoir ce que c'était qu'une petite quantité, tu vois, parce que si vous avez obtenu cette avancée-là, peut-être qu'il y a certains auditeurs qui seront contents de savoir qu'ils peuvent échanger avec leurs voisins, tu vois, par exemple.
Oui, mais tout à fait. Mais si tu veux, le propre de la semence paysanne, c'est qu'on ne fait pas du business avec, puisqu'elle est paysanne, c'est-à-dire que le paysan fait sa propre semence... Et voilà, c'est le but. Donc, c'est pas de faire de la vente. C'est que quand on parle d'échange, c'est pour avoir une nouvelle variété qu'on n'a pas encore. Mmh. Ou alors, si on est plusieurs à faire la même variété, à un moment, on se redonne des petites quantités pour garder en fait la variabilité génétique dans nos variétés population.
Mmh. D'accord. Ouais. Donc, il y a moyen de.
Et donc, au réseau Semences Paysannes, on a donc cette thématique sur la réglementation qui vraiment nous tient à cœur. Après, on a plein d'aspects mutualisation et on a des groupes de travail par espèce. Donc, comme je disais, il y a le groupe blé avec les paysans boulangers. Il y a le groupe potagère où maintenant, aussi avec un partenariat avec Biocoop, on va travailler sur la sélection de variétés potagères, donc population, en travaillant justement maintenant sur les aspects nutritionnels, sur le goût, sur... avec des groupements paysans. Mmh. On a le groupe vigne aussi, le groupe fruitier, parce que la réglementation arrive aussi sur les aspects fruitiers. Un groupe maïs, parce qu'on travaille sur des variétés non hybrides, sachant que dans le commerce, en fait, sur les maïs, depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, on ne trouve que des hybrides. Donc, quand il a fallu travailler sur des variétés population non hybrides, eh ben, il a fallu rechercher ces variétés, réapprendre à les produire, à les sélectionner, les échanger, les adapter aux différents terroirs. Et on travaille aussi à l'international. Donc, tous les 3 ans, on organise un grand événement international.
Qui consiste... on verra ça juste après notre pause musicale, parce qu'il est temps de retrouver Bang.
Once upon a time, in a city, there were men and women. Oh yeah, you know what I'm talking about. My brothers and sisters, the time has come for us. Let's ride the bike. Time has come for revolution.
Tic-tac, tic-tac, des matins très tôt, du train-train au métro, c'est la course vers le boulot. Clic-clac, je déplie le vélo, dans le crachat ou dans le chaud, je suis en mochard d'assaut.
Peur de ce mode de vie effréné, il est temps d'apprendre à désembrayer. Veillons sur les générations futures.
culture. Je veux les voir gambader dans la nature.
C'est nice, cool, slow et sans bruit. Imagine un monde sans voiture, ça fait cuicui. Marre de la petite ceinture et du ring. Avec mes potes, on a vu du drinking. Qu'un second bail, je suis happy. Libre comme l'air dans la city.
City bike, single speed, mountain bike, BMX. Dat zijn onze wapens in de stedelijke frontlinie. Een verzetsleger, guerrilla beweging. Van moedereerden die niet van de notte moe weten. We zijn straders die raden voor de goede zoek. De notte vrij stad die voor de vele blootse mocht. We zijn de cavalerie, die speert uit de fiets. Vele roosje, annexeert elke beat. De station en station, les abdos de fou. J'en connais un rayon, j'ai la veau du deux roues. Prends ton ticket. T'es sur la bonne piste, rejoins le projet. Dans la famille du cycle,
4 ni 3 ni 2 roues. J'tape wheeling sur les mains. Faut finir les barons. On vise la vie de king. On tourne plus en rond après un parking. Pour sa seule solution, la révolution. Qu'on se mette en scène et puis tous nous suivrons. Ce son essuie tous les sabés aux jeunes qui tracent le sillon de la Velocian.
Couleur FM 97.1. C'était Pang pour la Vélorussion. Nous sommes encore avec Valéria Abadzian pour parler de semences. Nous avons bien parlé du réseau Semences Paysannes. On peut peut-être en parler encore un peu, événements internationaux éventuellement, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre que le réseau Semences Paysannes autour de tout ça. J'ai l'impression que... Ou alors, on peut même aller plus loin pendant que tu tousses. On peut même prendre une autre orientation. Prenons une autre orientation, celle de... nous sommes jardiniers, potagineurs du dimanche et peut-être des autres jours aussi. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Est-ce qu'on est concerné par des lois
voilà. Castratrices? Alors, et ben justement, maintenant, on va arrêter de plomber. Donc, chez les jardiniers, tout ce que je viens de raconter, vous n'êtes pas concerné par tout ça dans ce que vous faites dans votre jardin, peut-être dans ce que vous achetez comme nourriture au supermarché, mais ça c'est autre chose. Après, dans le jardin, tout ça c'est fini. Donc toutes ces réglementations, elles ne vous concernent pas.
C'est-à-dire qu'on peut échanger des choses,
oui,
on peut sélectionner
graines,
ce qu'on veut.
Ouais, on peut faire ses graines, on peut les échanger avec les autres jardiniers. Mmh. C'est pour ça qu'il y a plein de trocs de graines.
Ça a été mis en péril, ça, à un moment ou pas? Ou
non.
Légalement? Non, jamais?
Non.
Pas chez nous en France? Mmh. Ok, très bien. Donc on peut faire des trocs de graines. Youpi. C'est la saison bientôt.
Et du coup, pour faire la continuité avec le réseau Semences Paysannes, quel lien vous pouvez avoir avec le réseau Semences Paysannes? Déjà, si vous voulez soutenir le réseau, c'est possible en ligne.
C'est-à-dire donner des sous, quoi, en pratique.
Oui.
Ça, n'hésitez pas, hein, brave
voilà,
gens.
Vous allez sur le site du réseau Semences Paysannes et vous aurez toutes les infos. Et sinon, en fait, dans le réseau Semences Paysannes, on a aussi un groupe des artisans semenciers qui s'appelle les croqueurs de carottes. Donc, ils ont monté une association justement pour réinscrire au catalogue des variétés amateurs des variétés qui étaient régulièrement sorties du catalogue. Donc, on pourra parler du catalogue plus tard si vous voulez. Et en fait, dans ces semenciers, bah, vous avez essentiellement Graines del País qui est dans l'Aude, Germinance qui est une entreprise qui est en Anjou et qui a des agriculteurs qui multiplient pour eux un peu dans toute la France. D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à la biodynamie trouveront chez Germinance des variétés produites en biodynamie. Toutes les variétés du catalogue de Germinance ne sont pas en biodynamie, mais quand il y en a qui sont en biodynamie, elles sont chez Germinance. Et après, l'autre semencier aussi des croqueurs de carottes, c'est Biogerme. Donc Biogerme, c'est un groupe qui est dans le sud-ouest. Ils sont une douzaine de familles à produire les semences depuis 30 ans. Voilà, donc quand vous achetez à Graines del País, Germinance et Biogerme, par exemple, vous êtes sûr d'avoir la qualité des semences. Ça, c'est vraiment garanti, parce que c'est des semences officielles contrôlées. Donc, taux de germination garanti, la variété, tout ça. Et l'éthique des personnes aussi, puisque c'est des personnes qui sont au réseau Semences Paysannes et qui travaillent avec le réseau.
On entend souvent parler de Cocopelli, ça ne fait pas partie. Et puis, les croqueurs de carottes, donc j'ai bien compris, ça s'appelle croqueurs de carottes, mais ils ne font pas que de la semence de carottes, on est d'accord ?
On est bien d'accord.
Ouais, d'accord. Cocopelli ne fait pas partie de ces gens-là, parce qu'on entend souvent parler dans les milieux alternatifs de cette association-là. Qui a très bon. Moi, je sais que j'achète plein de choses chez eux, peut-être qu'il ne faudrait pas, j'en sais rien, parce que du coup, ils ne font pas partie du réseau Semences Paysannes.
Absolument pas, et puis ils n'en feront jamais partie, parce que le collectif, ce n'est pas leur truc, en fait. Ils sont vraiment dans leur coin, ils n'ont pas envie de travailler avec les autres. Et autant nous, on travaille à faire évoluer la réglementation pour offrir un cadre légal au réseau Semences Paysannes, et du coup on s'est fait traiter de collabo en fait, parce qu'on travaillait avec le GNIS. D'accord. Donc Cocopelli veut que la semence soit libre, donc toute la semence libre et aucune réglementation, ni pour leurs semences à eux, ni pour les OGM, ni,
d'accord,
c'est plutôt le système un
peu
américain.
Oui, donc ils ont plutôt un point de vue on va dire libertaire, c'est-à-dire ils ont plutôt cette approche-là, donc c'est la différence entre...
Donc en fait, ce que je peux reconnaître à Cocopelli, ça c'est sûr, et Dominique Guillet, parce que Cocopelli c'est Dominique Guillet, c'est quand même le grand fondateur de Cocopelli, c'est d'avoir été lanceur d'alerte à son époque, c'est-à-dire que c'est les premiers qui ont parlé des problématiques sur les semences, l'appropriation, tout ça. Mais après, il n'y a pas forcément l'esprit très constructif. Enfin, voilà.
Oui, après, il y a différentes chapelles et différentes visions politiques du travail.
Je veux juste poser une question à Valérie sur l'aspect technique des semences, la qualité des semences chez Cocopelli, parce que...
Alors, moi, j'en ai jamais acheté, mais chaque fois, dans toutes les formations que je fais, en fait, à chaque fois, il y a des gens qui ont acheté leurs semences et qui ont des semences qui ne germent pas. Et aussi, ce qui arrive souvent, c'est des variétés. Enfin, les semences correspondent pas à la variété qui est vendue.
D'accord. Après, c'est vrai que c'est un fonctionnement associatif. C'est pas forcément un grand groupe non plus. Donc, on n'est pas.
Elles sont vendues assez cher quand même, les semences.
Oui. Moi, mon fonctionnement, par exemple, personnel ou ce que je dis dans les formations, c'est d'abord Germinance, c'est Biogerme, et puis même Semaille quelquefois aussi.
Oui. Qui sont à prime vert d'ailleurs.
Ouais. Et puis, parce que c'est des paysans qui produisent des semences, et que je pense que soutenir les paysans qui produisent des semences, dont c'est le métier, c'est important, d'abord parce qu'ils savent faire, et puis en plus, c'est des paysans qui peuvent vivre, du coup, de leur production, ce qui est quand même pas si facile.
Ce qui est le cas aussi chez Cocopelli.
Non. Alors que chez Cocopelli, c'est beaucoup des parrainages de variétés qui peuvent être faits par toi et moi, par n'importe qui. Enfin, tout le monde peut faire un parrainage de variétés. Et donc, moi, ça, c'est le côté que je trouve bien, c'est le côté militant, justement, divulgation de ces idées-là, de cette approche-là, et tout ça. Côté militant, mais côté professionnel, pour moi, il n'est pas suffisant. Enfin, c'est pas.
C'est différentes approches.
Voilà, donc ça n'existe pas chez Cocopelli. Voilà. Moi, c'est ça aussi que je fais comme différence.
Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est l'aspect humain, quoi.
D'accord.
La différence, elle est surtout là, pour moi.
Okay. Oui, c'est pour ça que je disais, moi, que c'est une autre.
Oui, Après, moi, je... Ok, c'est complètement entendable pour moi, ce truc-là. Après, je sais que c'est aussi différent, comme dans tous les réseaux un peu militants, on a différentes approches politiques, différentes choses comme ça. Je retiendrai, en tout cas, toutes les bonnes adresses que tu as pu nous donner, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans un gamme vert, pardon, je ne veux pas que je cite des marques, et ben, c'est pas forcément facile de trouver typiquement des semences de qualité, parce qu'on peut trouver beaucoup de semences bio. Enfin, mais c'est pas forcément un label de qualité.
Non, une semence bio, elle a été produite. Le porte-graine a été produit une année en bio, c'est tout. Basta. On peut avoir des hybrides en bio, voilà. Par contre, j'ai un peu mangé le truc, mais c'est que plus localement, voilà. Si on va à Primevert, donc il y aura Cocopelli, mais il y a, comme disait Hélène, Semaille. Bon, ils sont en Belgique, mais c'est pareil, humainement, c'est des personnes vraiment adorables. Et si, par exemple, la foire de l'Albinque, s'il y a des auditeurs qui vont à la foire de l'Albinque, normalement, il y a Jardin Envie aussi, qui fait partie du réseau Semences Paysannes, qui est à côté de Valence et qui produit donc les semences paysannes, évidemment, qui vend des plants aussi, qui vend toutes les préparations aussi d'extraits fermentés. Voilà. Donc localement, si vous voulez avoir des gens aussi proches du réseau Semences Paysannes, il y a possibilité. Mmh. Et après, moi, ce que je voulais dire sur les semences aussi, donc il y a... Oui, aussi, si, c'est vrai que l'inconvénient avec Germinance Biogerme, bah, c'est qu'il faut commander sur catalogue. Alors, on ne peut pas aller dans la jardinerie chercher son paquet de semences. Mmh. Hein. Ça peut être intéressant, justement... de commander à plusieurs aussi. Mmh. Ça peut être là, mon côté collectif réseau ressurgit parce que même pour acheter ces semences, on peut se regrouper à plusieurs. Mmh. Donc acheter ces semences de cette façon, c'est aussi un acte politique. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la conscience politique pour le faire, mais voilà, ça peut être
c'est
ça aussi.
C'est un acte important aussi.
Et aussi, ce qui va... Là on va rentrer dans la saison des trocs de semences. C'est intéressant, dans les trocs de semences, de récupérer des fois des variétés que vous ne trouverez pas dans le commerce, pour des aspects de réglementation, mais qui peuvent être des variétés très locales. Mmh. Et dans les trocs de semences, quand vous trouvez une variété, renseignez-vous déjà sur comment les gens l'ont produit, parce qu'aussi, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc des courges croisées, recroisées, recroisées, alors là, oui. Ça y va. Mais aussi, si c'est une variété qui est que dans le coin, il faut avoir la conscience de l'importance de cette variété et aussi de l'importance de la sauvegarder, parce que cette variété peut-être n'existe que s'il y a des gens qui la multiplient et qui l'échangent. Mmh.
Et puis si elle se perd, ça peut être des milliers d'années de culture ou ouais. Allez, je vais dire des centaines. Non, mais ça peut être aussi beaucoup de parce que la sélection, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur 3 ans. C'est non. Quelque chose qui se fait sur des dizaines et des dizaines d'années. Et du coup, quand un petit papy meurt avec son stock de graines, dont on ne sait pas s'il est plus, s'il a fait des graines, elles seront probablement étiquetées. Mais derrière, c'est aussi une transmission importante.
Exactement. Alors tout le monde ne veut pas transmettre ces graines. Il y a des papys qui font tout pour. Voilà. Qui vont, moi, un paysan, l'autre fois que j'ai enquêté, m'a raconté qu'il cherchait la blette verte frisée d'Issingeaux. Donc il y a quelqu'un qui lui a donné de la graine. Pour ne pas lui dire non, il lui a donné de la graine. Mais il m'a dit, il l'a fait griller à la poêle avant pour être sûr qu'elle ne germe pas.
Ah. Mais j'ai l'impression, alors c'est pas la première fois que j'entends des vacheries sur les trocs de graines. J'ai déjà suivi un formateur, quelqu'un qui m'avait fait une formation là-dessus, et où il disait, si vous voulez être salaud avec quelqu'un dans un troc de graines, faites ci, faites ça. J'ai trouvé ça vache de disséminer ce genre de paroles dans une formation sur les
graines. Mais par contre, il y a plein de papys qui seront très contents de donner leurs graines, et surtout, prenez bien ça comme un cadeau, parce que c'est réellement un cadeau, c'est un cadeau très précieux, donc prenez-en bien soin.
Mais c'est toujours des papys.
Non, ça peut être des mamies. Et puis, ça peut, des fois, ils peuvent être moins papys, moins mamies, un peu plus jeunes, mais...
Mais s'ils ont des graines depuis fort longtemps, et peut-être que ça fait voilà. Des gens, effectivement. Il y a aussi des mamies semeuses, il n'y a pas de souci. Bon, on va s'arrêter là pour cette émission. Merci beaucoup. C'était Couleur Terre, une émission de variété ancienne sélectionnée grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Ben et avec Laurent Forcheron à la technique, animée par Flo Msev de Radio Permaculture avec Hélène Ollard et aujourd'hui Valérie Abadzian. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions. Couleur Terre, cultivons la vie!
Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Ollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressée aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.